Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci à vous tous qui nous écoutez sur www.radiocapi.net. Comment pérenniser les entreprises familiales en République démocratique du Congo? Alain Mouyouk, docteur en psychophysiologie du travail et des organisations de l'Université de Lubumbashi, est notre invité. Alain Mouyouk, bonjour.
Bonjour, M. Zélie. Bonjour à tous nos auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue dans cette émission. Vous voulez participer à ce programme? 085 42 11 547, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour intervenir. Alain Goy à la mise en onde, Benjamin Moudoumbi coordonne et réalise cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Radio Capi vous propose un nouveau programme d'enseignement à distance intitulé Panaokapi Éducation avec les partenariats de l'UNICEF et le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Panaokapi Éducation est à suivre du lundi au vendredi entre 16h et 17h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Rediffusion samedi de 9h à 11h, dimanche de 10h à 12h. L'enseignement à distance à la portée de tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est notre raison d'être. On se retrouve donc du lundi au vendredi entre 16h et 17h pour Bana Okapi Éducation. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Radio Okapi, encore plus près de vous.
Okapi. Bien, comment pérenniser les entreprises familiales en République démocratique du Congo? Vous savez, de nombreuses entreprises familiales ne traversent pas, n'arrivent pas à traverser des générations. Elles peinent à se pérenniser après la mort des fondateurs. On peut citer par exemple les groupes GB, Dokolo, Kamita Tumasamba, Kansebou, le groupe Kisombe, Fonti ou Etrafa, le groupe Litomoboti et plusieurs autres groupes aujourd'hui qui ont disparu. Alors généralement après la mort des initiateurs, les successeurs se retrouvent généralement sans vision ni compétences nécessaires pour continuer à développer les sociétés de leurs parents. Et ces entreprises battent de l'aile, mimées par l'impréparation, les conflits entre frères et sœurs, le mélange des rôles familiaux et professionnels et autres. Au finish, tout s'arrête, on ferme boutique, le reste n'est qu'un souvenir. Alors que faire pour assurer une transition en douceur et la continuité des entreprises familiales après la mort des fondateurs? Nous voyons par exemple le groupe Forest aujourd'hui qui a traversé des générations. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour avoir des entreprises familiales qui durent dans les temps, qui se pérennisent? Alain Mouyouk est docteur en psychophysiologie du travail et des organisations de l'Université de Lubumbashi. Encore une fois, bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. La première question est de savoir quelles sont les raisons qui font que bon nombre d'entreprises familiales n'arrivent pas à résister, à tenir longtemps. Voilà. Alain Mouyouk.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Jody. Comme je le disais, nous avons mené une recherche effectivement à Lubumbashi pour essayer de comprendre quels seraient les facteurs qui peuvent induire la pérennité, ou alors ceux qui sont à la base de l'échec, n'est-ce pas, de l'échec entrepreneurial des entreprises. Alors, cela en comparant deux grandes familles, des entreprises tenues par les non-congolais, que nous appelons, n'est-ce pas, étrangers, et des entreprises tenues par les Congolais. Alors, il s'est avéré que le taux de pérennité apparaît plus élevé chez les entreprises tenues par les non-congolais et leur taux de disparition est très réduit. Ce qui est le contraire pour les entreprises tenues par les Congolais. Le taux de pérennité est faible, mais le taux de disparition est aussi très élevé. Alors, nous avons voulu chercher à savoir, bon, d'une manière holistique, les raisons sont nombreuses. Il y a des raisons effectivement psychologique, organisationnel, mais aussi culturel et structurel. Et donc, nos recherches ont abouti, n'est-ce pas, à peindre un tableau selon lequel, effectivement, l'impréparation à la transition intergénérationnelle, le manque de la transmission de la vision, n'est-ce pas, et le poids de certaines, que j'appelle certaines pesanteurs culturelles, surtout pour les entreprises congolaises. Donc on a identifié un certain nombre de ces pesanteurs. Les conflits, par exemple, elles minent, dès que, c'est-à-dire que certaines entreprises meurent ou disparaissent avec le départ ou la mort de leurs fondateurs. Voilà.
Oui, et quelles sont ces deux entreprises que vous avez eu à comparer dans votre étude?
Non, alors nous avons fait une approche mixte. Dans l'approche quantitative, nous avons fait une étude interrogée 246 entreprises, dirigeants d'entreprises familiales, et nous sommes entrés avec l'approche qualitative. Nous avons étudié en profondeur des grandes entreprises, 6 grandes entreprises, dont 3 congolaises et 3 non congolaises. Vous avez le groupe Mulicap, vous avez Agidor Nouveaux Horizons, vous avez une entreprise Manquet. De l'autre côté, on a eu l'entreprise Panaco, le groupe Forest, le groupe Persaro. Et donc, on a découvert que les groupes, les entreprises tenues par les non congolais, certaines ont célébré même leur centenaire. Et en sont à la 4e, voire 5e génération.
Génération.
Ce qui est le contraire, oui, ce qui est le contraire avec les entreprises congolaises. Il y en a qui sont déjà à 30, 35 ans. Nous espérons qu'elles vont réussir effectivement à passer le cap du centenaire. Et déjà que de la première à la deuxième génération, c'est difficile, mais c'est encore plus difficile de faire passer l'entreprise de la deuxième à la troisième génération. Donc les résultats ont montré clairement que les entreprises congolaises peinent effectivement à se pérenniser par rapport aux entreprises des non-congolais.
Alors, parmi les raisons, vous avez parlé de l'impréparation. Pourquoi les initiateurs ne préparent pas les héritiers à la gestion des entreprises voilà, qu'ils ont mises en place?
Oui. Et donc, quand on parle d'abord d'une entreprise familiale, en fait, c'est une entreprise qui fait intervenir, je peux dire, deux sortes de cultures, la culture entrepreneuriale et la culture familiale. Et la culture entrepreneuriale, en fait, c'est tout le package de tous les instruments de gestion, de la vision rigoureuse, de la télé, de la comptabilité, de l'audit. Et donc, on a mis à la disposition certains outils de gestion qu'il faut tenir. Un comité de gestion d'un côté. De l'autre côté, l'entreprise reste quand même familiale. C'est-à-dire, elle a en son sein, dans le capital, il y a la participation des familles, dans la gestion, dans le management, vous avez la présence de certains membres, mais il y a l'ambition de transmettre aussi cette entreprise à une génération future. Alors déjà, si la vision, la vision de la transmission ou la préparation à la transmission intergénérationnelle, elle doit en fait venir déjà en amont, c'est-à-dire vous construisez l'entreprise au fur et à mesure, vous en parlez, vous partagez la vision, soit à vos enfants, soit à votre épouse, et vous le faites participer effectivement à la gestion. Mais il faut qu'il y ait effectivement un mur de séparation entre les affaires de l'entreprise et les affaires familiales. C'est la porosité de ce mur-là pour les entreprises congolaises qui fait pénétrer les tares qui viennent de la gestion des questions familiales, qui peuvent miner, n'est-ce pas, la pérennité de votre entreprise. Donc, il faut vraiment une nette séparation entre les affaires qui relèvent de la famille et celles qui relèvent de la gestion entrepreneuriale. Alors, pour d'autres entreprises, on a découvert que, à côté du comité de gestion ou du conseil d'administration, il y a un conseil de gestion des questions familiales. Vous voyez, par exemple, pour le groupe Raoji, vous avez, par exemple, la fondation Raoji. Vous avez la fondation Rachel Forest, vous avez la fondation ainsi de suite. Ça entre dans ce cadre-là de la séparation. Mais de l'autre côté, la frontière entre ce qui relève de la famille et ce qui relève de l'entreprise en tapis, elle est poreuse. Et bon, la tante peut débarquer et puis bon, elle va à la comptabilité pour chercher l'argent. L'oncle se considère comme étant membre aussi de l'entreprise.
Oui.
Et dès qu'il y a alors la mort du dirigeant, là, on ne respecte ni le testament, ni quoi que ce soit, et alors ça crée la mort effectivement de ces entreprises.
Bien, et certains de nos auditeurs internautes nous ont écrit disant que lorsque le chef d'entreprise, le papa ou la maman, ou disons généralement les papas, commence à voir son entreprise prospérer, voilà, il va épouser plusieurs femmes, il a plusieurs enfants, et généralement ils envoient ses enfants en Europe, et ils ne vont revenir que le jour où le papa décède. Donc ils n'auront rien compris par rapport à la gestion de son entreprise.
Justement. Donc, parmi les causes culturelles, on parle aussi de la forme des familles. Ici, en Afrique, au Congo, effectivement, la polygamie, c'est une autre forme de famille. Les enfants nés hors de l'île principale. Et donc, les divorces, le nombre aussi d'enfants, par exemple, et ces enfants ne sont pas associés à la gestion. Pour les entreprises tenues par les non-congolais, les étrangers par exemple, les enfants étudient, font des études en fonction de leur entreprise, c'est-à-dire l'entreprise familiale. On va étudier et puis on revient faire un stage dans tel département, l'année prochaine c'est dans tel autre département, ainsi de suite. Au bout de 5-10 ans, alors le repreneur de l'entreprise a déjà une vision globale. Mais pour ce qui est généralement des entreprises, alors congolais, l'enfant va faire des précieuses études même de gestion, mais il est déconnecté des réalités de l'environnement. Il peut revenir que lorsque papa est moribond, tombe gravement malade, et donc le manque d'incrustation de la situation ou d'appropriation de la vision de l'entreprise, de la gestion au quotidien, peut constituer un gap dans la manière de gérer et de conduire l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent.
Tout à fait.
Parce que vous allez perdre les repères.
Mmh. Ouais. On va accueillir Maître Machaka depuis la ville de Lubumbashi. Comment pérenniser les entreprises familiales en République démocratique du Congo? Maître Machaka, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les invités de la Radio Capri.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Merci beaucoup, Monsieur Jody, de m'avoir accordé la parole. Vous savez, comme l'invité vient de le dire, et c'est la désorganisation dans la gestion des entreprises familiales. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises familiales, Monsieur Jody? Vous savez, aujourd'hui, un papa récupère son enfant, il le met dans l'entreprise sans contrat. Il n'y a pas un contrat de travail. Il y a dans d'autres familles, là où il n'y a même pas les salaires. C'est-à-dire, c'est le jour où on veut, on lui donne quelque chose seulement comme argent de poche, comme pour nous servir dans ses besoins. Or, normalement, pour pérenniser les entreprises familiales, chaque enfant qui est engagé dans l'entreprise ou bien qui est mis dans les activités de l'entreprise familiale, il doit signer un contrat en bonne et due forme, comme tout travailleur. De sorte que ça, puisque dans ces contrats, on détermine les clauses. On détermine les clauses, on sait s'il va à l'encontre des telle clause, il est sanctionné de telle manière. Mais quand on s'engage, on s'embrasse seulement dans le cadre familial. On voit beaucoup, ce n'est pas seulement entre père et enfant, il y a entre grand frère et petit frère, grande sœur et petite sœur. Quand on s'embrasse comme ça, sans contrat, sans clause, sans quoi que ce soit, les conséquences, c'est à la disparition du chef d'entreprise qui est le responsable de la famille, tout disparaît. Mais si on mettait de l'ordre, on t'engage, tu es fils ou bien fille du chef d'entreprise qui est papa. Et on t'engage comme un travailleur. Il y a les contrats, il y a les clauses. À ce moment-là, c'est quoi? On peut pérenniser l'entreprise. Bien sûr, on ne peut pas engager tout le monde, mais si on met quand même quelque chose, puisque moi, j'ai connu certaines familles ici, dont ils avaient les papas avaient laissé les maisons et consorts, il y a un gestionnaire de maisons. Et on sait que non, dans les loyers, on touche autant par mois. Et il y a autant d'héritiers, autant d'ayants droit sur ces loyers-là. Là, on a déjà fixé les salaires de tout un chacun. Ces gens-là n'ont pas le droit de passer voir les locataires, quoi que ce soit, pour aller réclamer leurs droits sur les loyers. Ils passent sur les bureaux, sur les bureaux de ces gestionnaires-là. Ils savent que chaque fin du mois, moi, on me paye autant. Pour l'amortissement des maisons, on garde autant. En tout cas, si on organisait les histoires dans ce sens-là, je crois qu'il y aura la pérennisation des entreprises. Puisque quand on donne l'exemple de Marta Forest, c'est quoi? C'est le système qui travaille.
Bien.
Voilà au moins ma...
votre contribution. Merci Maître Machaka, oui, depuis la ville de Lubumbashi. 085 42 11 547, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour intervenir dans l'émission. Alain Mouyouk, qu'est-ce que vous pouvez dire à Maître Machaka par rapport à son voilà à sa proposition?
Je salue l'intervention pratique de Maître. La désorganisation, les contrats, effectivement, c'est-à-dire ça révèle la dimension de la gestion informelle. Pour les entreprises congolaises, hein, on a constaté que nombreuses veulent gérer des gestions, pas avec des outils de gestion, mais avec des pratiques informelles qui ont montré, n'est-ce pas, leurs limites. Alors, nous avons fait une étude documentaire auprès du tribunal de commerce. Il y a beaucoup de contentieux après la disparition. Il y a beaucoup parmi les... Après, je crois, le dossier foncier, c'est plus la gestion de l'héritage qu'on le trouve dans, au tribunal de commerce. Il y a beaucoup de contentieux à ce propos. Et donc, du vivant, par exemple, du fondateur de l'entreprise, qui n'a pas préparé. Il y a un problème culturel, maître venait de le relever. Entre, culturellement, ici chez nous, on respecte beaucoup le droit d'aîné. Est-ce que c'est l'aîné qui doit diriger l'entreprise parce qu'il est nécessairement aîné?
Même s'il n'en a pas les compétences.
Même s'il n'en a pas les compétences. Est-ce que c'est parce qu'ils sont garçons que les filles doivent être à la traîne parce qu'elles seront épousées? Vous voyez, que ça c'est un tas. Une sorte de tas qui mine effectivement la pérennité aussi des entreprises familiales. Et donc, il faut au départ identifier qui ont le profil, à qui on peut transmettre, qui on peut préparer, par exemple, pour qu'il soit le repreneur et un bon gestionnaire, n'est-ce pas, de la chose. Nommer un gestionnaire et gérer avec des mécanismes rationnels et rigoureux pour que l'entreprise réussisse à se pérenniser. Pour ne pas reprendre toujours à zéro, je ne l'ai pas dit, la littérature indique que 70% des entreprises au monde, elles sont familiales. Dans un environnement où le marché de l'emploi est saturé, et donc on devait se recroqueviller même sur les petites entreprises que les familles ont bâties, pour que ce soit un gage aussi de l'emploi, de la création de la richesse et de la valeur. Et donc c'est une chance pour les familles d'avoir des entreprises familiales. Et il faut les gérer avec ce qu'on venait de dire, tous les mécanismes rigoureux, n'est-ce pas, de gestion. Et avoir la vision pour savoir la transmettre au fur et à mesure. Il ne faut pas seulement au soir de la vie, ou quand on tombe malade, alors on cherche à savoir qui sera impliqué dans la gestion. Donc ça doit se faire, je crois, au début, au fur et à mesure, pour essayer de réussir cette pérennité.
Bien, Maître Machaka a proposé de donner un contrat à chaque enfant. Si par exemple vous prenez votre enfant, vous le mettez dans votre entreprise, il faudrait qu'il ait un contrat en bonne et due forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Mais justement, c'est-à-dire que on gère l'entreprise familiale avec les règles de la gestion d'une entreprise. Il est là reconnu comme coactionnaire ou alors comme agent. Il doit être payé, il doit être soumis à toutes les règles. Donc, ce qu'a relevé le maître est intéressant. Au besoin, ce que font les autres entreprises, c'est quoi? C'est d'introduire dans l'entreprise une personne tierce ou externe à la famille. Vous voyez? Donc, confier la gestion à une personne extérieure à la famille et qui ne fait qu'appliquer les règles de la gestion. Comme l'exemple que le maître venait de relever. Et ça peut encore constituer une soupape de sécurité et de protection pour ces familles. Mais ça court le risque, si on ne comprend pas, si on ne sait pas la différence entre les affaires familiales, les membres de la famille peuvent avoir tendance, n'est-ce pas, à chercher à dominer ou à intimider effectivement la personne externe pour lui faire voir, savoir que bon, écoute, de toutes les façons, c'est notre entreprise. Non, il faut respecter la frontière entre ce qui relève de l'entreprise et y appliquer sa gestion rigoureuse, et c'est qui relève de la famille, et il y a une charte de gestion des choses familiales. Et si on respectait les deux, il y a une possibilité de s'inscrire dans la durée que nous appelons pérennité.
Bien, on va accueillir Junior Bompongo depuis la ville de Kinshasa, 085 42 11 547. Appelez-nous pour participer à cette émission. Comment pérenniser les entreprises familiales en République démocratique du Congo? Junior Bompongo, vous êtes à Kin. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Kanchama, bonjour à l'invité et aussi à de nombreux auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Oui, ce que je peux dire est que la faillite répétée des entreprises familiales dans notre pays n'est pas une fatalité. Elle est souvent la conséquence d'un manque d'anticipation et de gouvernance. Pourquoi? Parce que lorsqu'un fondateur disparaît sans avoir préparé sa succession, l'entreprise entre presque toujours en crise. Et pour éviter cela, il faudrait planifier la relève de son vivant, séparer clairement la famille de l'entreprise et instaurer une gouvernance professionnelle basé sur des règles et non sur les lettres du sang. Il est aussi essentiel de former la nouvelle génération et lorsque c'est nécessaire, de confier la gestion à des managers professionnels. Et enfin, pour prévenir, je peux dire que les conflits familiaux par des accords clairs permettent de protéger l'entreprise. En réalité, une entreprise familiale n'émet pas par manque d'argent, mais par improvisation. Pour endiguer cette situation, je crois que c'est une succession préparée et professionnalisée et assurer sa pérennité.
Bien, merci beaucoup Junior Bompongo depuis la ville de Kinshasa. Comment pérenniser les entreprises familiales en République démocratique du Congo? Voilà, bon nombre de familles tenues par les Congolais ne traversent pas les générations. Et voilà, notre invité nous a donné les causes. Et nous parlons aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour les maintenir, les pérenniser. Voilà, Alain Mouyouk, vous avez suivi les propositions des Junior Bompongo. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je m'aligne que sur ces propositions. Effectivement, il a dit des choses de très intéressantes, que la faillite des entreprises familiales n'est pas une fatalité. C'est-à-dire, même les recherches n'est pas, notre thèse apportée sur la dynamique entrepreneuriale et la pérennité des entreprises familiales, la conclusion dit que le manque de pérennité ou la pérennité n'est pas lié à la nationalité ou à la couleur de la peau. Non. Donc ce n'est pas une fatalité. Et il tient compte de la variable de l'improvisation comme une des variables déterminantes et il dit vrai. Alors beaucoup d'entrepreneurs pensent aussi que c'est plus le facteur financier ou économique qui est plus déterminant. Mais nos recherches ont montré que non, c'est beaucoup plus le mindset, la mentalité, ou alors ce que nous appelons le manque d'une culture entrepreneuriale solide, qui se veut être déterminant, qui pèserait le plus, n'est-ce pas, dans la pérennité des entreprises familiale. Lorsqu'on ne prépare pas, on ne forme pas, on ne fait pas la différence entre ce qui relève de l'entreprise et ce qui relève de la famille, donc on tombe, n'est-ce pas, dans le risque de ne pas réussir à pérenniser son entreprise. Donc, nous émettons sur la même longueur d'onde avec M. Junior et j'en suis content.
Alors, vous parlez de la culture entrepreneuriale. Comment développer cette culture? Est-ce qu'il y a des mécanismes, des choses à mettre en place pour cultiver, n'est-ce pas, cette culture entrepreneuriale?
Oui, effectivement, je crois que il faut que ça commence déjà au niveau des familles. Au niveau des familles, il faut encourager des initiatives Il faut encourager l'identification des opportunités, détecter, être très observateur, par exemple, dans le chef des enfants, qui a plus telle habileté, qui a un profil de manager, les former, la formation. Il y a beaucoup de formations qui sont offertes aujourd'hui. Il faut se former suffisamment pour... On ne gère pas naïvement. La gestion requiert une certaine rigueur, l'application de certains principes. Il y a des écoles de management, il y a des formations, on peut s'auto-former. Aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons suffisamment beaucoup de plateformes et d'outils de formation de gestion. Et du point de vue, par exemple, ça, il faut encourager, par exemple, quand vous voyez, il y a, même au niveau du gouvernement, un regain, n'est-ce pas, un élan. On est arrivé à ériger, nous avons un ministère des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat. On a créé le guichet unique d'entreprise et d'autres services, le Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, il s'observe quand même une certaine dynamique, ce que nous avons appelé dynamique entrepreneuriale, et certaines structures au niveau national, au niveau de certains partenaires, au niveau de certaines structures. On a inséré les cours d'entrepreneuriat à l'université, bien qu'ailleurs, ça commençait déjà encore un peu plus tôt à l'école primaire, à l'école secondaire. C'est-à-dire qu'il faut, en peignant le tableau, il faut montrer que notre environnement, nous vivons dans une société où le chômage est endémique, et donc il faut se former à l'entrepreneuriat. Et c'est cette culture qui doit commencer dès la famille, dès l'école. Et donc, c'est une chance d'avoir une petite entreprise. Et il faut se battre, mettre toutes les énergies possibles pour conserver cette entreprise, parce que c'est elle qui peut le faire vivre. Et donc... mais aussi montrer les modèles de ceux qui ont réussi. Vous voyez, par exemple, si vous avez l'exemple de l'entreprise Mulicap, il y a des gens qui ont réussi, qui constituent des success stories et qui méritent d'être présentés en modèle.
Comme des modèles, oui.
Et donc, de dire à la jeunesse que c'est possible, oui, effectivement. Et dans notre pays, bon, ne soyons pas fatalistes, comme a dit M. Julien, mais soyons aussi optimistes. Il y a des gens qui ont réussi. Il y a des modèles dans tous les secteurs, dans le secteur du sport, dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans la création des gens qui ont réussi, qui réussissent et qui doivent être érigés, constitués de modèles, de repères. Et il y a des forums qui s'organisent sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprises, sur ceci, mais quoi qu'il est encore faible et doit être amplifié, c'est toute cette sauce-là, la combinaison de tous ces facteurs qui constitue ce qu'on appelle la culture entrepreneuriat. Voilà.
Bien. On va accueillir un autre auditeur. Nous parlons de la pérennisation des entreprises familiales en République démocratique du Congo. On va donner la parole à présent à Blaise Saïdi depuis la ville de Kisangani. Blaise, bonjour.
Bonjour, cher Jody. Bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs de la radio d'Apo.
On vous écoute.
Voilà. Merci beaucoup. La faillite de nombreuses entreprises familiales après la disparition du fondateur résulte principalement de l'absence de planification successorale, de la confusion entre les liens familiaux et les compétences et du manque de gouvernance formelle. Assurer cette continuité exige d'anticiper la succession, de formaliser les règles de gestion et de professionnaliser la direction afin de transformer l'entreprise familiale à une structure durable, indépendante des personnes. Mais il y a toujours des questions qu'il faut s'interroger, où je vais demander à l'invité la première question. Les rôles et les responsabilités des héritiers sont-ils clairement définis? La deuxième question, comment protéger l'entreprise contre les blocages liés au cycle légal? La troisième question, le patrimoine familial et l'entreprise sont-ils clairement séparés? Et pour chuter, le fondateur a-t-il préparé un plan clair de succession, puisque c'est là où réside aussi le problème.
Merci beaucoup pour toutes ces préoccupations. Alain Mouyouk, qu'est-ce que vous pouvez dire à Blaise Saïdi?
Je salue l'intervention de M. Blaise qui ajoute à nos arguments effectivement les causes plus familiale, mais aussi des mécanismes pour relever cela. Il a parlé effectivement de la planification successorale, de la confusion effectivement des rôles et du manque de gouvernance. Et parmi ces propositions, il parle de formaliser et de professionnaliser effectivement. Ouais. J'ai parlé de l'informalité, n'est-ce pas, de nos structures. On continue à considérer nos entreprises comme étant encore peut-être des petites boutiques. Mais tout commence petit. Ça peut commencer en très petite entreprise, moyenne entreprise. L'objectif, c'est de la rendre grande entreprise plus tard. Pourquoi pas? Et c'est comme ça que tous les autres. Mais aussi se diversifier. Il y en a qui ont commencé dans tel secteur et qui ont diversifié, ainsi de suite. Il y a la troisième, quatrième génération. Et donc, il y a le rôle du fondateur, mais il y a aussi le rôle des successeurs. Le rôle et la responsabilité des enfants. Il faut qu'ils mordent à la vision du fondateur. Oui, lui doit y travailler pour la leur transmettre, mais eux doivent comprendre que c'est un enjeu d'avoir, et c'est une fierté d'avoir une entreprise. Surtout en reprenant ceux qui font de la reprise, par exemple. Vous avez, il s'est bâti le fondateur pour mettre la fondation, pour mettre les bases, et vous reprenez. Donc, si on comprend si tôt que c'est une chance d'avoir une entreprise, qu'il faut se former suffisamment, se former et s'informer, eh bien, on peut faire une bonne acquisition. Mais, qu'est-ce qu'on constate souvent? C'est que, bon, il y a une fissure entre le fondateur. Les enfants ne s'intéressent pas à ce que papa fait, hein, ainsi de suite. Ou alors, bon, après sa mort, on s'est réunis pour vendre l'affaire et puis chacun prend sa part. C'est pas intéressant. Et le patrimoine et l'entreprise elle-même, effectivement. C'est-à-dire que tout ne repose pas uniquement essentiellement sur la tête du fondateur. Je crois que lui a eu à faire de gros. Il a eu à identifier un besoin, il a saisi l'opportunité, il a construit l'entreprise, et s'il réussit à vous la léguer, vous faites le reste. C'est à vous de faire le reste, effectivement. Mais aussi, dans le chef de la conservation du patrimoine et tout l'ensemble du personnel, par exemple, il faut qu'il comprenne ou développe ce qu'on appelle le sens du propriétaire. Que c'est une affaire, c'est notre affaire. Cette entreprise, c'est notre affaire. Si on réussit à faire ça, effectivement, je crois qu'on peut réussir à pérenniser. Mais aussi, il ne faut pas qu'il y ait une rupture brusque. C'est-à-dire, vous attendez 80 ans, ou alors la maladie pour partir. Non. Dans les études que nous avons eu à faire, on a fait cas à certaines entreprises dont, à 50 ans, je crois, la gestion, le propriétaire est présent 50% du temps. Quand il a atteint 60 ans, il est présent 25%. Et puis après, il n'est là que peut-être pour des questions plus spécifiques. Il a déjà légué la gestion. Et donc la préparation lointaine, soit la transmission de la vision et la préparation lointaine, peut constituer un facteur qui peut permettre effectivement à l'entreprise de se pérenniser. Que ce soit pour les enfants, les repreneurs, ou alors les autres membres de l'entreprise. Comme je dis, on peut injecter un sang nouveau ou externe dans la boîte, dans l'entreprise. Quand on parle d'entreprise familiale, il ne s'agit pas que tout le village vienne travailler, n'est-ce pas, dans l'entreprise, non. Il faut recruter des compétences externes qui peuvent constituer un pilier. Mais aussi, on peut partager dans l'actionnariat, on peut ouvrir des parts pour que ceux qui ont mis 20, 30 ans, par exemple, dans l'entreprise, c'est le cas d'une entreprise, qui a ouvert à d'autres actionnaires externes les parts dans leur entreprise pour que celle-ci devienne davantage plus robuste. Et donc, c'est possible, effectivement, de réussir en mettant sur pied les mécanismes de gestion rationnels pour réussir à se pérenniser. Une meilleure structuration ou alors une anticipation aussi, n'est-ce pas, des enjeux de la succession. C'est ce que l'éditeur, je pense sur ça, qu'il voulait qu'on puisse insister.
Et puis donc, il a dit qu'il faudrait. Il a dit aussi. Il a dit aussi qu'il faudrait qu'il y ait un plan de succession, un plan bien conçu, pour faire un plan de transition, si je peux le dire ainsi.
Mais justement, c'est la préparation de la transmission intergénérationnelle, ou alors qui vient dans ce qu'on appelle des dynamiques de succession. Une entreprise, c'est un projet qui naît, qui doit croître, qui doit grandir, et qui doit peut-être se diversifier. Parce qu'une entreprise, c'est comme un être vivant. Il peut naître, grandir, et puis peut-être mourir. Or, nous ne voulons pas que les entreprises meurent. Ça, c'est une chance pour l'économie et la question de l'emploi, n'est-ce pas, de notre société. Donc, nous voulons que les entreprises familiales qui naissent, il y a une forte dynamique entrepreneuriale. Mais plusieurs entreprises disparaissent après 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais passer encore d'une génération à une autre, c'est très difficile. C'est facile de passer d'une première à la deuxième génération, mais de la deuxième vers la troisième génération, c'est très difficile. Même si, à capital égal, si on remet $1 million à un étranger, on remet $1 million à un Congolais, vous verrez que 10 ans après, quand vous revenez, c'est difficile de trouver que celle-ci. Et donc, les causes ne sont pas que économiques ou financières. Moi, je le situe beaucoup plus à ce que j'ai appelé le mindset, la culture entrepreneuriale.
La culture.
Oui, effectivement.
Bien, on va accueillir Jeannot Louemboué depuis la ville de Kolwezi et puis Ismaël Mompoy nous appelle de Lubumbashi, 085 42 11 547. Comment pérenniser les entreprises familiales en République démocratique du Congo? Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Je salue l'invité, les auditeurs. Merci de faire ce sur le thème. Devoir retenir que c'est pas tout le monde qui est fait pour diriger. Aîné de la famille, homme, celui le plus âgé là, non. C'est pas parce qu'il est le plus âgé qu'il doit être fait pour diriger. C'est ce qu'explique même dans un auditoire, il y en a toujours qui sautent la deuxième session. Même s'ils font la gestion, la finance, vous comprenez ça. C'est pas tout le monde qui est appelé à diriger. Vous comprenez ça. Selon les statistiques faites par l'invité, ce sont les entreprises tenues par les hommes blancs, qui ont des âges comme ça, qui traversent des générations, des siècles. Les seuls tenus par nous autres, là, qui sommes Congolais, la majorité des Congolais sont noirs, ça vit aussi longtemps que l'initiateur sera là. Et quand il meurt avec toi. Alors, rentrons, regardons-nous dans le miroir pour nous décortiquer. Qu'est-ce qui nous caractérise? Excusez-moi, le lapsus. Quand il y a la mort de l'initiateur, il y a beaucoup de choses qui font à ce que l'entreprise tombe en faillite. D'abord, comme je l'ai dit, c'est pas tout le monde qui est appelé à diriger. Vous allez voir que ça sera les plus aînés qui vont dire, nous allons diriger, vous êtes des gens. Être grand, moi j'ai toujours dit, c'est mal l'âge, mais aussi l'intelligence. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous caractérise, je dis? D'abord, il y a d'abord l'esprit de pauvreté qui va pousser aux gens à pouvoir s'immiscer, créer l'ingérence. Tout le monde va mettre la main, s'imposer. Ils allaient qu'il y a papa Nabisso. Je vais m'imposer, j'ai aussi le même droit. Même si vous n'en avez pas la capacité intellectuelle de diriger. Parce que pour diriger, il faut être intellectuellement capable. Âgé ou moins âgé. Deuxièmement, l'esprit de cupidité. C'est-à-dire quoi? Je vais d'abord, et l'égoïsme, hein, je vais d'abord me rassurer que parce que papa n'est pas là, que mes enfants ne vont plus dormir affamés. C'est-à-dire, je prends dans l'entreprise, je mets derrière moi, dans ma maison, que ça soit pour moi. Imaginez que vous êtes 10, que tout le monde fasse cet exercice-là, l'entreprise sera dépouillée. Troisièmement, il y a l'esprit de désordre, l'esprit de non-confiance. Est-ce que tel sera vraiment dirigé cette entreprise? Il ne saura pas le faire. Le manque de confiance. Vous allez voir que, parce que tout le monde n'aura pas confiance à tout le monde va s'ingérer par esprit de pauvreté, l'entreprise tombera en faillite. Donc, attendez-vous que les entreprises tenues par le Congolais tombent toujours en faillite parce qu'aussi longtemps que nous aurons ces graines au-dedans de nous. J'ai fini, monsieur.
Mais il y a quand même des Congolais qui se démarquent, le cas de Moulikap, là, à Lubumbashi.
Ils sont combien? C'est une tache blanche sur une surface grande. Ils sont combien? Il faut aller leur poser la question. C'est quoi leur secret? ils se sont imposés, ils ont eu fait confiance aux plus intelligents de la famille, et ils ont trouvé que c'est celui-là qui a le sens du management. Ils sont combien? Nous avons besoin du pourcentage. Vous comprenez? Mm-hmm. Du pourcentage.
Bien, merci. On va donner la parole à Ismaël depuis Lubumbashi. Comment pérenniser les entreprises familiales en RDC? Oui. Ismaël Mumpoy, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité. Merci à ces pertinentes contributions.
On vous écoute.
Moi, ça fait des jours sur la page Okapi Service. Je vous donne mon exemple personnel. J'avais créé mes petites entreprises en vue de relever quand même les défis familiales. Mais par contre, c'était une déception ou un puits que moi-même j'avais grisé que je me suis affolé dedans. Je vous donne le premier exemple, que c'est celui qui gérait l'établissement qui comptait 12 000 dollars. Puis après une année, je suis allé parce que je pouvais passer ou ne pas passer. J'ai trouvé que en dessous de son lit, il y avait 5.
Allô, il y avait quoi?
Enfant, qui par négligence a laissé son entreprise,
sa petite entreprise. Vous avez dit
et que la bougie avait tout emporté, que c'était une maison d'autrui.
Il avait gardé l'argent.
C'est pour dire que la famille, nous avons besoin parfois de relever les défis en vue d'aider les autres que ceux qui travaillent avec nous. De nos vivants, nous sommes butés à une difficulté. Mais vous vous imaginez la question que je pose à l'invité parce que je l'ai suivi. Quelle sera un peu la honte? Parce que je ne parle pas en termes d'autre chose. Quelle sera la honte des biens hérités par nos chers qui restent vivants? Ces défis ne concernent pas seulement ceux qui ont laissé les biens, qui sont décédés, plutôt même les vivants. D'abord, on peut plus se baser sur les vivants. Vous avez cité les Moulikap. Moi, je vous donne aussi l'exemple des Ndaye Bouana et les Bidoua Yachimbou. Vous pouvez vous demander aujourd'hui le fortuné du temps de nos passages. Quand on faisait des commerces, quand on passait, c'était les gens bien fortunés. Quelle est la suite? Vous passez, vous trouvez cette parcelle n'est pas à vendre. Je ne sais pas si nous nous sommes posé la question, pourquoi la question se pose, cette maison n'est pas à vendre. Disons la famille, quand nous avons une famille, la famille ne sait pas le poids de ce dont vous avez fait pour acquérir les biens. Vous vous imaginez par exemple, j'étais créé quelque chose, que moi j'ai passé par exemple à l'étranger, en Afrique d'ici, dans Zambie, partout. Même j'ai passé la nuit dans un parc, hein. Et puis le matin, je continue mon chemin, mais c'est lui que j'appelle pour assumer la responsabilité, ne fait rien. L'invité a dit quelque chose, ou notre, celui de Colouézi, a dit quelque chose là. Nous pouvons faire un peu le budget pour savoir, je vais te payer autant, autant. Mais je peux même vous citer le nom de mon petit frère, c'est Crispin Dal. Lui, c'est la caisse est là, chaque jour, votre salaire c'est autant. Je ne veux plus que tu fasses ici le bien familial pendant 2 ans. Votre boîte est là pour mettre ton argent. À un mois, c'est autant d'argent. Mais malheureusement que tout ce qu'on peut faire par l'entremise des efforts familiales, nos frères ne tiennent pas compte de tout ce que nous faisons pour eux.
Mais,
je pense que c'est une question très, très, très cruciale.
Ismaël,
je connais une personne, Ismaël, dans mon passage, dans une province du Kassai Central, je ne peux pas citer le nom. C'était une femme. D'un homme fortuné de Bidoua Mwamba qui a géré quand même l'entreprise de ses parents quand son père a été décédé. Mais jusqu'à présent, cette entreprise continue à exister. Disons l'exemple de ce que nous avons, c'est qu'il n'y a pas plus, même s'il y a l'initiative, ces gens-là ne tiennent pas compte. Ils pensent que ma famille était là, l'argent, mon grand frère a l'argent. À leur disparition, nous allons nous approprier du bien. Mais pour combien de temps? C'est ça, c'est qu'on peut préparer même ceux qui sont décédés, ceux qui ne sont pas encore décédés. L'entrepreneuriat au Congo n'existe pas. Il n'y a pas cette... Dans notre cas, quand vous ouvrez votre propre entreprise, il a fallu prévenir. Et l'avenir, qu'est-ce que le bien qui nous a été légué et que nous avons hérité nous aidera à quoi? Je pense que l'invité doit spécifier. choses vis-à-vis de nos familles, qui pensent que notre grand frère a quelque chose, ma grande sœur a quelque chose, ça suffit. À part ça, ceux qui n'ont rien là, il faut boire. Quand ils vous demandent 100 dollars, demain ou le lendemain, ils vous redemandent encore. C'est ça. Il n'y a pas l'initiative. S'il n'y a pas la discipline, par exemple, de ceux qui n'ont rien pour contribuer au développement, c'est tout un développement d'abord. Ça peut engager même autant de personnes que nous avons dans des familles, parce qu'au Congo, le travail n'existe presque pas. Ce que nous avons comme des petits boulots là, ce sont des travails. Je vous donne un deuxième exemple, ben, ceux qui ne faisaient même pas partie de moi. Mais d'abord, mon enfant, quand il a été exclu de ceux qui étaient restés, qu'est-ce qui est arrivé? Il est venu, il a dit à ceux qui travaillaient, non, là je comprends que ça c'est le système mystique, parce que les choses ne peuvent pas croître comme ça. Vous voyez, quand on utilise les gens d'autres que de notre famille, il y a une avancée que c'est que nous utilisons les membres de notre famille. Je pense que j'ai dit c'est Ismaël depuis Lubumbashi. Merci.
Merci Ismaël Mompoi. Alain Mouyouk, à vous la parole. Allô, Alain Mouyouk, vous êtes là?
Monsieur Ismaël, allô?
Oui. Vous m'entendez? Oui, allez-y.
Oui. Oui, je disais que nous peignons presque le tableau de la même manière, et vous voyez que ce qui est relevé, c'est plus la dimension de nos mentalités, ce que j'appelle le mindset congolais et la culture congolaise est quelque peu minée par certaines pesanteurs culturelles. Vous parlez par exemple, Monsieur Djanou parlait de la jouissance, vous voyez, la jouissance. Monsieur Ismaël a rappelé un certain nombre d'entrepreneurs traînés dans le Kassai quand le diamant faisait. On entendait parler des gens, on citait des noms et des artistes qui les mettaient en. Il y a des gens qui ont du diamant, qui ont fait du commerce avec beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, on voit certaines images, certaines vidéos, il paraît qu'ils sont moribonds à l'hôpital et qu'ils ne savent pas se faire soigner. C'est quoi? C'est la jouissance. On ne sait pas séparer la gestion rationnel et de ce qui est de la jouissance. Il suffit qu'on cite votre nom, vous êtes prêt, n'est-ce pas, à donner votre manteau. Monsieur Janot a parlé de l'esprit de la pauvreté. Bon, l'esprit de la pauvreté, c'est pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il veut dire que effectivement, dans nos familles, c'est plein de gens, en fait, qui veulent un peu être toujours dépendants.
Les parasites.
Veulent être Les parasites, ils veulent être à son dépens, vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle la solidarité à l'africaine. Donc c'est une affaire de papa, c'est une affaire de maman. Non, ça c'est notre oncle. Il suffit d'être élevé un peu en dignité. On fait la fête, on fait ceci, ainsi de suite. Et puis alors, on attend qu'on soit pris, même si on n'en a pas les compétences, ainsi de suite. L'individualisme, effectivement, c'est-à-dire, le bien, il est communautaire, l'entreprise, on voit la transmise. Mais chacun veut émerger seul, surtout après la disparition alors du fondateur. Et alors, on convainc depuis, chacun va développer seul. Ou alors, on gère la boîte, mais à côté, on crée une caisse noire dans laquelle on met ses épargnes pour que si la boîte tombait, moi, j'ai déjà le pied, je sais où poser, n'est-ce pas, mon pied. Le manque de discipline. Donc, l'entrepreneuriat, effectivement, requiert certaines exigences. Le profil d'un bon entrepreneur, la question de M. Ismaël disait, pourquoi alors est-ce que l'entrepreneur n'existe pas? Non, l'entrepreneur existe, mais il faut le correspondre au profil du meilleur entrepreneur. C'est quelqu'un qui a une vision.
Alain Mouyouk, une question. Quel peut être le rôle de l'État dans l'encadrement des entreprises familiales?
Justement, je l'ai relevé, je l'ai dit que l'État considère effectivement que l'entrepreneuriat est une chance. Ouais. Toutes les structures, on a créé le guichet unique de création d'entreprises. Pourquoi? Parce qu'on se plaignait qu'il y avait une lourdeur administrative. Il y a le Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs structures, n'est-ce pas, corollaires, effectivement, pour essayer de soutenir. L'État essaie de faire quelque chose, financer les formations. Mais aussi, l'État s'est constitué en garantie. Il y a des jeunes, par exemple, je connais un programme financé, pas bien PME, qui a été financé par la BAD, n'est-ce pas, qui a donné l'argent. Et l'État s'est constitué en fonds de garantie. Mais il y a des jeunes gens qui ont reçu l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on fait l'évaluation de ces projets-là, Il y a des jeunes gens que je connais qui ont reçu 50, 60, jusqu'à 100 000 dollars. Mmh. Mais le lendemain, on voit des photos, ils sont à Zanzibar, ils sont en train de prendre des photos, ils se sont mariés, ils ont détourné. Voilà. Et l'État essaie de faire quelque chose. Et l'État doit continuer à jouer le rôle dans la formation, dans la facilitation, par exemple, de l'obtention du papier. Il doit faire comprendre qu'avoir des entreprises, c'est une chance. C'est une chance pour l'État pour endiguer, n'est-ce pas, le chômage et permettre aux jeunes de pouvoir faire leur insertion professionnelle, de créer de la richesse et de la valeur dans la société. Et c'est ça le rôle, effectivement, de l'État et du ministère, n'est-ce pas, de l'économie, mais peut-être de petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat. Donc, le profil de l'entrepreneur idéal, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques, qui doit être patient, discipliné. Ce n'est pas quelqu'un, dès qu'il a l'argent en poche, et puis, bon, il va acheter du champagne à tout le monde. Hein.
Oui, il va épouser plusieurs femmes.
Vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. Mmh. Oui, ou il va épouser plusieurs femmes, ainsi de suite. Donc, notre mentalité ou notre mindset est la pesanteur qui tire vers le bas des entreprises familiales. Il faut, ceux qui réussissent, c'est pas sorcier de réussir. C'est pas la couleur de la peau. C'est pas parce qu'on est né au Congo qu'on sort. Non. En Afrique du Sud, il y a des gens qui réussissent. En Zambie, il y a des gens qui réussissent. Et puis bon, même aux États-Unis. Mais ici, au Congo aussi, il y a des gens qui réussissent, mais ils sont moins nombreux. Pourquoi? Parce que minés par cette mentalité que nous sommes en train, n'est-ce pas, de décrier.
Bien, Alain Mouyouka.
Culture,
oui, oui, vous avez.
En quelque sorte, savonner un peu certainement.
Oui, oui, vous avez cité par exemple le projet PADEM-PME qui est devenu le projet Transform de la Banque mondiale. Alors, prenons par exemple le cas de Malta Forest. Aujourd'hui, cette entreprise a déjà traversé combien de générations? Je pense que vous l'avez dit, vous pouvez encore nous rappeler.
Ils sont la quatrième génération.
Quatrième génération.
Ils ont commencé dans le BTPE, ouais, les bâtiments, et puis aujourd'hui, ils sont dans l'agriculture, ils ont réussi à se diversifier. Quand vous prenez Hyper Psaro ici à Lubumbashi, ils prennent des pans entiers de notre économie. Quand on parle des banques, aujourd'hui on se plaint, les banques, ce sont les Kenyans qui ont acheté, ainsi de suite. Mais on avait l'Union des banques congolaises qui a fermé, d'autres ont fait faillite, ils ont été liquidés. Regardez, relisez l'histoire de la zarinisation. On a donné l'argent aux gens, et puis après, où sont ces entreprises? Elles ont fermé. Elles ont fermé. C'est plus par la mentalité. Donc notre mindset, il faut le révisiter, il faut le savonner, il faut rééduquer. Donc, à la culture familiale, il faut injecter une culture rigoureuse, une culture entrepreneuriale. Que l'entreprise se gère avec des normes. Il faut être très rigoureux, très rigoureux. Il faut faire intervenir des audits externes pour venir auditer votre gestion, pour permettre de vous améliorer. Et même pour gérer l'argent. On ne gère pas l'argent vague de vague. Sur les réseaux, vous voyez un jeune homme dans les mines ici au Katanga. Il a attrapé et il montre l'argent à tout le monde, ainsi de suite. Vous voyez.
Et il fait des folies.
Là-bas, elle n'est pas durable. Oui, il fait des folies. Elle n'est pas durable. Et les jeunes pensent qu'effectivement, il faut se battre pour cela. Non. Non. Il y a des gens qui ont l'argent et puis, vous ne savez même pas reconnaître ceux qui ont l'argent. Mais pour bâtir des empires, j'ai dit que les entreprises familiales sont une chance pour notre économie. Et si elles deviennent de plus en plus nombreuses, c'est une chance pour l'emploi, pour la création de la valeur, pour la création de la richesse. Et une société où il y a la création de la richesse, où le taux de l'emploi est quasi équilibré, l'État sombre moins, il y a moins d'insécurité, il y a moins d'incertitude.
Merci Alain Mouyouka, docteur en psychophysiologie du travail et des organisations de l'Université de Lubumbashi. Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
C'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro d'Okapi Service.